Et donc les ex-conjoints semblent avoir à ce point un sentiment qu'ils peuvent se partager la dette. Alors évidemment, ils peuvent se partager la dette à un moment donné s'ils remboursent immédiatement tout, mais ils ne peuvent pas se partager la dette en jouant sur un plan de remboursement qui n'est pas encore effectué. Je donne un exemple dans un dossier de contentieux. Donc un couple a contracté un crédit ensemble. Au moment où l'ex-mari écrit, il reste à devoir environ 27 000 euros. Lui dépose un dossier de surendettement, donc de son côté, sont deux choses séparées. La Banque de France estime qu'il ne peut pas raisonnablement tout rembourser et donc propose au centre de crédit un plan de remboursement d'une partie de la dette avec effacement à l'issue des 3600 euros restants. Le centre de crédit refuse la proposition. Donc à partir de là, l'ex-épouse intervient parce qu'elle y trouve intérêt indirectement, elle aimerait que cette affaire soit réglée, elle a peur que ça prenne trop de temps si on passe en appel, etc. Et donc elle propose, elle, de rembourser maintenant ces 3600 euros restants, mais ces 3600 euros restants potentiellement à l'issue d'un plan qui n'a pas encore été remboursé. Donc du point de vue de la banque, évidemment, ça n'a aucun sens, aucun intérêt d'accorder... de décharger une personne d'une partie de la dette alors que l'ensemble n'a pas été remboursé. Et donc ça revient assez souvent dans les dossiers contentieux et les discussions au service contentieux, c'est une source d'incompréhension régulière. Donc d'autre part, très rapidement, il y a plusieurs choses qui font que les dettes contractées en couple, on peut peser sur les maisonnées successives, sur les ménages successifs. Donc d'abord, j'ai eu plusieurs exemples comme ça à l'octroi de crédit. Par exemple, j'ai donné celui d'une fonctionnaire en préfecture qui n'arrive pas à contracter, qui a du mal à contracter un crédit avec son nouveau conjoint parce que son ex-conjoint n'a pas remboursé un crédit qu'ils avaient fait ensemble et que donc elle-même est fichée à cause de cela. Et comme en plus elle s'est retrouvée à payer en fait ce crédit que devait prendre à sa charge l'ex-conjoint, elle le ressent comme une double injustice. Un autre exemple, c'est que même si l'ex-conjoint prend effectivement à sa charge les dettes prévues telles que c'était prévu, le simple fait que théoriquement, de manière formelle, enfin de manière juridique, quelqu'un a des dettes à sa charge parce qu'il a signé un contrat dans le passé, l'empêche, le gêne pour contracter de nouveaux crédits, même si en pratique ces dettes sont prises en charge par l'ex-conjoint. Donc j'avais donné très rapidement l'exemple d'un employé de la poste qui vient de divorcer, il a vécu très longtemps avec sa femme et il est hébergé par ses ex-beaux-parents. Finalement, cet hébergement à titre gratuit qui lui permettra d'obtenir un crédit, mais c'est très difficile pour lui. Alors, il a fait plusieurs crédits permanents, des crédits revolving, pas cher, il s'est pas mal endetté pour ça, pour gérer le divorce. Et là, il voudrait essayer de faire un rachat et de baisser ses mensualités et de faire un prêt plus intéressant. Et il a du mal à l'obtenir parce que il a signé les contrats avec son ex-conjointe et donc, juridiquement, il en reste redevable. Donc la banquière lui dit si jamais elle s'arrêtait de payer, il se retournerait contre vous, donc moi je suis obligée de les compter à votre charge. Donc ces exemples pour montrer que l'incitation à la signature du conjoint au service au centre de crédit est donc conséquente. D'une part, elle débouche sur un accès facilité au crédit pour ceux qui peuvent apporter la preuve d'une vie maritale dans la mesure où le conjoint perçoit des revenus. D'autre part, elle engendre des problèmes spécifiques, notamment lorsque la durée de vie du couple est en contradiction avec celle du contrat de prêt. Se pose maintenant pour moi la question de situer cette monographie. Et je n'ai pas grand-chose pour la situer dans la littérature, à moins que vous ayez des idées à me suggérer. Donc j'ai essayé de le faire dans une deuxième partie avec différents éléments. D'abord, j'ai utilisé par ailleurs les données de l'enquête patrimoine 2004 de l'INSEE, qui ne fournissent bien sûr aucune information sur le mode de sélection des banques, mais donnent une image de l'endettement des ménages à travers lesquels on peut dessiner l'effet de la vie en couple sur le recours au crédit. Et donc éventuellement faire des hypothèses sur l'effet de la solvabilité grâce à la vie en couple. Alors les données, je ne sais pas si vous connaissez les données de l'enquête patrimoine, elles sont un peu frustrantes pour l'endettement des ménages, parce que donc notamment parce que pour justement alors que le patrimoine est souvent mesuré au niveau individuel dans le ménage, il y a plusieurs questions au niveau individuel, ce n'est pas le cas de l'endettement, il n'y a que des questions sur le ménage, ce qui est très gênant pour distinguer hommes et femmes et voir l'effet de la vie en couple. Simplement, ce que je peux essayer de dire très vite pour résumer, c'est que quand on regarde l'endettement immobilier, on voit un effet de la vie en couple très net qui n'est pas surprenant. D'abord, un effet de solvabilité très fort. La probabilité d'avoir un endettement immobilier en cours est la plus élevée pour les cadres mariés avec des cadres. Donc on retrouve cet effet de solvabilité évident et puis un effet aussi de demande de crédit. On est plus enclin à demander un crédit immobilier lorsqu'on vit en couple. Par contre, lorsqu'on regarde l'endettement à la consommation, on ne retrouve pas cet effet de solvabilité, en tout cas pas de façon nette, ce qui paraît assez logique puisque tous les petits crédits à la consommation, notamment crédit permanent, etc., sont plutôt très faciles d'accès. Alors ce qu'on trouve quand même, c'est une différence entre hommes et femmes. Pour les hommes, le fait de vivre en couple augmente quand même la probabilité d'avoir un endettement à la consommation. Tout le ménage est un endettement à la consommation, notamment lorsque la conjointe est employée ou ouvrière. Donc là, on trouve pas un effet de solvabilité, mais plutôt un effet de faible revenu. Et on sait... On retrouve quelque chose qu'on sait de manière plus générale, c'est que l'endettement pour de l'équipement est le plus fréquent pour parmi les revenus moyens qui comprennent surtout des employés et des ouvriers entre 40 et 50 ans. Par contre, lorsqu'on regarde les femmes, c'est pareil, pour les femmes, le fait de vivre en couple n'augmente pas la probabilité que le ménage ait un endettement à la consommation en cours. Là, on aurait presque l'impression inverse que pour les femmes, vivre en couple protège de l'endettement à la consommation. Voilà, c'est donc plutôt l'image de l'endettement à la consommation comme étant utilisé pour pallier un manque d'épargne ou de trésorerie. Donc dans l'ensemble, l'endettement en couple est lié au crédit immobilier, et donc on sait par ailleurs qu'il constitue souvent une cause commune des couples. Donc dans le cas du crédit immobilier, cette réalité a moins de chances d'être vécue comme une incitation bancaire à user de la signature du conjoint comme moyen technique pour accéder au crédit. De plus, je voudrais ajouter que dans le cas des crédits immobiliers, l'enjeu en cas de séparation ou divorce n'est pas du tout le même, en tout cas dans les années 2000. Ça n'a pas toujours été le cas, mais dans les années 2000, un endettement immobilier signifie en général un actif réalisable qui permet de rembourser la dette, ce qui n'est pas le cas des crédits à la consommation en général. Donc j'en viens à chercher à situer ce que j'ai observé au centre de crédit. Est-ce que c'est une réalité locale? À quoi est-ce dû? Dans l'enquête patrimoine, donc on ne ressort pas un effet de solvabilité lié au crédit à la consommation, mais l'enquête patrimoine ne permet vraiment pas de voir des situations de crise financière très faiblement. Et en fait, dans tout ce que j'ai mis comme crédit à la consommation, il y a un continuum depuis les prêts revolving jusqu'au rachat de dettes. Les prêts revolving sont très difficiles à obtenir et les rachats de dettes beaucoup plus difficiles évidemment. Et donc, toute chose égale par ailleurs, la possibilité de signer à deux peut être le critère qui, pour la banque, fait passer la demande de prêt d'une catégorie de risque à l'autre. Pour donner un exemple très concret, une cliente mariée vient au centre de crédit avec l'intention de contracter un nouveau crédit qu'elle souhaiterait faire seule, elle l'annonce dès le début. Et après examen du dossier, la conseillère lui dit que son taux d'endettement de 45% est trop élevé pour un nouveau prêt personnel. Elle lui propose alors deux solutions, soit elle fait un rachat de dette qui permet de faire baisser ses mensualités et donc son taux d'endettement, et donc elle peut lui prêter à elle seule, mais à un taux bien plus élevé que pour un prêt classique, soit donc elle lui fait un prêt personnel classique, moins cher, mais alors il faut que son conjoint signe. Donc là, le choix est bien clair. Donc l'incitation à s'endetter à deux varie selon le prêt et quel que soit le prêt, d'autant plus fort que la solvabilité du client est faible, que ce soit en raison de ses revenus ou de ses charges. Donc ce n'est pas surprenant que cette observation ait frappé au centre de crédit où les clients employés ou ouvriers et ou en difficulté financière sont surreprésentés. En particulier, cette incitation à s'endetter à deux semblait jouer notamment pour les rachats de dettes, donc ces prêts particuliers, qui permettent de faire baisser les mensualités de crédit pour ceux qui supportent mal leur mensualité de remboursement. Donc parmi les clients arrivant au centre de crédit, assez fréquemment, il semble que l'endettement en couple pour un rachat succède à l'endettement seul d'un des conjoints pour des petits prêts à la consommation. Donc il y a une sorte d'effet de cycle de vie ou de trajectoire d'endettement. On commence par s'endetter seul et à un moment donné, on peut en venir à être obligé de s'endetter à deux si on veut éviter la procédure de surendettement. Je mettrai très vite le cas d'une fonctionnaire de police retraitée. Donc elle est devenue fonctionnaire tard après une vingtaine d'années d'emploi en usine. Elle s'est mise à s'endetter à ce moment-là, sans trop s'en rendre compte, avec des crédits revolving, et elle l'a fait sans en parler à son conjoint, jusqu'au moment où, en lisant un papier, il s'en a aperçu, il s'est aperçu de la situation qui était devenue assez dramatique, et donc ça a été une période très difficile, ils ont été tous les deux en dépression, etc., et ils ont fini par être acceptés au centre de crédit, seulement s'ils avaient accepté, pour un rachat de dette. Qu'elle a pu faire parce que son conjoint a signé, donc qu'ils ont pu faire en prenant leurs deux revenus en compte. Donc pour elle, c'est vraiment, elle le prend comme un rachat, c'est-à-dire un rachat dans tous les sens du terme. Elle a écrit crédit final en gros sur la pochette contenant les documents liés à son rachat de dette. Et pour elle, en pratique, pour leur arrangement de couple en pratique, ça n'a pas vraiment pesé à son conjoint, mais dans la mesure où cette situation l'a placée dans une position totalement dominée. C'est-à-dire qu'elle travaille au noir pour compenser ce que ce rachat coûte, et qu'elle elle est en situation vraiment dominée par rapport à son mari qui a rattrapé son conjoint, en fait, son concubin, qui a rattrapé la situation par sa signature. Voilà, donc en conclusion, on sait que la souscription d'un crédit immobilier se fait souvent à deux, qu'elle est vécue comme un mode d'engagement normal dans la vie de couple en général. Donc moins connues sont les situations où la signature du conjoint est utilisée comme moyen technique pour accéder au crédit à la consommation. Donc il m'a semblé qu'il était légitime en cas de parler de prime au conjoint, d'incitation à s'endetter à deux. Ça concerne des gens qui, pour différentes raisons, se situent à ce moment-là un peu à la frontière de l'accès au crédit. D'une part, leurs revenus sont au mieux moyens, ce qui ne les a pas empêchés de souscrire de petits prêts à la consommation. D'autre part, ils aimeraient soit obtenir de meilleures conditions de prêt, soit obtenir un rachat de dette. À ce stade, leur trajectoire d'endettement, la présence d'un conjoint peut donc, prêt à co-signer, peut s'avérer déterminante. Voilà.
Donc, cette question, dans le dernier cas, qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait persisté à vouloir être seule à gérer ses dettes
Pour
la femme.
Elle ne pouvait plus, en fait, elle aurait. Elle aurait mis un dossier sur endettement.
Et alors
elle a fait un dossier sur endettement. Comme elle a des revenus, ses dettes n'auraient pas été effacées, mais elle aurait un aménagement de ses dettes. Ouais. Qui aurait pas forcément été beaucoup plus dramatique. Son rachat est assez intéressant quand même, parce qu'elle a, je l'ai mis, je crois que c'est 400 euros par mois. Je sais plus si j'ai monté.
À rembourser, si, ouais.
C'est ça, ça a baissé à 400 euros. Oui,
juste avant la conclusion.
Ah, c'est difficile parce que comme chaque succursale compte pas exactement de la même manière, il faut dire exactement ce que la Banque de France aurait demandé de rembourser, mais ça aurait peut-être pas forcément été...